Et bonjour, Annick Delefosse au micro du réseau FM+. Tous les vendredis, retrouvez votre émission dédiée à l'actualité culturelle à 10h10 avec rediffusion le samedi à 12h10 ainsi qu'à 18h10 et écoutable en podcast sur fmplus.org. Aujourd'hui, je reçois Béla Tsoupone, metteur en scène, comédien et directeur de La Baignoire, le lieu des écritures contemporaines à Montpellier. Il est accompagné d'Éric Collonge, comédien. En seconde partie, Brice Carayol, metteur en scène, nous présentera la création Machine Théâtre, l'imitateur de Thomas Bernard. Une première version à voir à la Vista du 19 au 22 de ce mois. Chère Béla,
oui.
Je vous sens en pleine forme.
Ouais.
Oui. Bon, comment va votre baignoire?
Mais ça va, elle est pleine.
Je savais que vous aimeriez ma petite question, n'est-ce pas? Elle est pleine, archi pleine, on
oui,
peut le dire.
On peut dire que
elle déborde même. Attention, il faut la rappeler à plomb.
Oui, alors je rappelle à tout le monde que si vous voulez venir à la baignoire, il est toujours prudent et même fortement conseillé de réserver, étant donné que c'est un lieu assez petit, avec très peu de place. Mais là, nous sommes vraiment complets pour le Camus de demain et après-demain.
Et oui, donc bon, nous en dirons quand même quelques mots,
bien
n'est-ce
sûr.
Pas alors voilà, ce lieu fait le buzz.
Ah bon?
Ah oui.
Oui, oui.
Non, ah, non, ça, non, bon, c'est vrai, depuis auprès des amateurs d'écriture contemporaine,
voilà,
en tout cas.
C'est vrai que depuis plusieurs années, effectivement, ça marche plutôt très bien. Là, ce qu'on aimerait, c'est étendre le domaine de la lutte. Donc, on va essayer de diffuser plus les œuvres et de donner plus l'occasion aux compagnies qui travaillent sur des auteurs ou des écritures contemporaines de pouvoir se déployer ailleurs. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment, ce sera plutôt pour 2018, mais j'y travaille.
Ah, bah ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, oui, parce que voilà, vous avez énormément de demandes, mais vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde.
Avec voilà,
vous,
je ne peux pas satisfaire tout le monde et je ne peux pas donner les conditions idéales que je souhaiterais aux compagnies de la région, qui souffrent déjà beaucoup des restrictions budgétaires et des disparitions de lieux actuellement. Donc je pense que nous sommes des professionnels et que donc les compagnies d'ici ont droit à des conditions professionnelles.
Eh bien oui, on est bien d'accord. Mais bon, comment faire? Quelles sont les solutions?
Les solutions, c'est par, je pense, des synergies. C'est ce que j'essaie de faire avec différents lieux. Je pense que aussi c'est la prise de conscience du politique, effectivement, que le fait culturel n'est pas uniquement un fait du prince, mais effectivement un véritable enjeu politique par rapport à la population et à la démocratisation et la démocratie culturelle
bon,
et artistique.
Est-ce que vous avez dit tout ça à nos politiques culturelles?
Bien sûr, je les vois tous les matins. Moi. Je fais au bistrot et je rencontre tout le monde, tous les présidents de régions, de départements. Non, je n'ai pas eu l'occasion de leur dire. Non, mais je pense que d'autres l'ont dit effectivement pour moi. Et je pense que notamment au niveau du département, les lignes sont en train de bouger, vu qu'il y a une mobilisation des spectateurs. Parce qu'effectivement, ça ne concerne pas uniquement nos métiers, mais les gens à qui ça s'adresse et les gens qui veulent vivre dans et avec la création et la culture.
Eh oui. Alors bon, il nous manque une réelle politique culturelle ici à Montpellier, c'est
je
ça aussi que vous voulez dire?
Je le crains, non, mais c'est-à-dire que maintenant on ne peut pas vivre uniquement sous des contraintes et des restrictions économiques que nous comprenons parfaitement, mais simplement il y a vraiment d'autres, comme je disais tout à l'heure, d'autres enjeux au niveau des générations existantes, surtout des nouvelles générations. Il faut pouvoir leur proposer une offre culturelle abondante et diversifiée. Parce qu'on peut toujours nous rétorquer qu'effectivement il y a des offres abondantes. Et il y en a à Montpellier, et tant mieux, sur des grands spectacles dans des lieux reconnus. Mais nous avons aussi tout un vivier de comédiens, de metteurs en scène, de danseurs, de plasticiens et d'autres à faire vivre et à faire croître. Et que ce n'est pas uniquement des têtes d'affiche qui constituent une politique culturelle, mais c'est bien l'irrigation de tout un réseau.
Et oui, on est bien d'accord. Alors, Béla, cette année encore, vous donnez voix au chapitre à des expériences variées. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la dernière, la de 2016, avec La Claustra de Marc Callas. C'est une expérience assez sympa.
Oui, alors, c'est d'abord La Claustra, c'était une installation immersive, sonore, sur un texte contemporain, d'un auteur contemporain. Donc, c'était une expérience assez particulière, puisque le public était plongé dans un salon, donc s'asseyait sur auprès d'objets qui racontaient des histoires et qui créaient un environnement sonore avec des profondeurs de champ, donc dans toute une installation sonore comment est-ce qu'on appelle, je ne sais plus, enfin bref, où on situe bien tous les sons, etc. Et c'était vraiment extrêmement agréable, et c'est une expérience pour le public, je crois, extrêmement, extrêmement constructive, et vraiment qui plongeait dans un passé qui renvoyait par le biais du son dans des expériences personnelles, des expériences plus larges et des expériences spécifiques à une histoire. Et la particularité de ce dispositif, c'est qu'après, le public devait se réunir pour échanger ce qu'ils avaient entendu et pour essayer de construire, effectivement, de reconstruire ce, ce que Marc avait diffusé.
Oui. Alors bon, venons-en à votre actu. Ce soir, vendredi, et demain, samedi, les auditeurs attentifs à votre programmation donc, auront déjà réservé pour l'œuvre d'Albert Camus, La Chute.
Oui. Hein? Alors ça, c'est effectivement Stéphane Lodier et Jean-Marc Bourg sont des habitués de la baignoire. Et donc là, c'est un travail de mise en espace, et plus, c'est plus qu'une lecture. Donc sur le texte que tout le monde connaît de la chute d'Albert Camus, un homme parle à un autre homme dans un bistrot et il y a différents rendez-vous où cet homme est juriste et puis voilà, interroge le bien, le mal, interroge le mensonge, etc. dans le monde.
Eh oui. Alors, on écoute un extrait, on précise que c'est interprété par le magnifique comédien
Jean-Marc Bourg.
Jean-Marc Bourg.
Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être importun? Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable gorille qui préside aux destinées de cet établissement. Il ne parle en effet que le hollandais. Il ne devinera pas que vous désirez du genièvre. Je m'étonne parfois de l'obstination que met notre taciturne ami à bouder les langues civilisées. Son métier consiste à recevoir des marins de toutes les nationalités dans ce bar d'Amsterdam, qu'il a appelé d'ailleurs, on ne sait pourquoi, Mexico City. Avec de tels devoirs, on peut craindre, ne pensez-vous pas, que son ignorance soit inconfortable? Mais non. Celui-ci va à son chemin. Rien ne l'entame. Voyez, au-dessus de sa tête, sur le mur du fond, ce rectangle vide qui marque la place d'un tableau décroché. Il y avait là, en effet, un tableau. Et particulièrement intéressant. Un vrai chef-d'œuvre. Eh bien, j'étais présent quand le maître de séance l'a reçu et quand il l'a cédé. Dans les deux cas, ce fut avec la même méfiance, après des semaines de rumination. Sur ce point, la société a gâté un peu, il faut le reconnaître, la franche simplicité de sa nature. Quand je vivais en France, je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'en fisse ma société. Ah! Je vois que vous bronchez sur cet imparfait du subjonctif. J'avoue ma faiblesse pour ce mode et pour le beau langage en général, faiblesse que je me reproche, croyez-le. Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales. N'empêche, le style, comme la popeline, dissimule trop souvent de l'eczéma.
Eh oui, on peut attraper de l'eczéma, Bella, hein.
Oui, pourquoi oui. J'ai l'air. Je ne sais pas, c'est de la radio, donc personne ne peut me voir. Pourquoi, pourquoi
vous n'écoutiez pas, là, la fête, c'est de ce dernier extrait.
Si, j'ai entendu
l'eczéma. Eh ben voilà. Donc, chers auditeurs, désolé, mais donc, c'est complet. C'est à la baignoire ce soir et demain. Mais bon, il y a d'autres excellents spectacles que vous pourrez y voir. Et nous passons donc au 27 et 28 de ce mois, où vous présentez une lecture mise en espace d'un texte de David Léon.
Oui, alors David, c'est une vieille histoire, si j'ose dire. Parce qu'on nous avons présenté il y a déjà une dizaine d'années les premiers textes de David Léon à la baignoire. C'est vraiment un auteur qu'on suit depuis très très longtemps et dont on peut suivre la progression de l'écriture. Et je crois qu'il c'est un auteur d'une très grande exigence. Moi, ses textes me fascinent parce que je vois vraiment l'homme à l'œuvre. Enfin, l'homme et l'écriture à l'œuvre, l'homme aussi parce que voilà, on sent qu'il prend de l'ampleur, de l'amplitude en fonction de ce qu'il vit, des réflexions qu'il fait par rapport à son métier d'écrivain. Et donc là, ça s'appelle De terre, de honte et de pardon. C'est un texte qui n'est pas édité. Il y a beaucoup de textes sont édités aux éditions Espace 34.
Donc ce n'est pas son dernier.
C'est pas son dernier. Non, en tout cas, il n'est pas édité. C'est son. Mais David écrit beaucoup. Il est très prolifique. Donc, ça doit être son avant-dernier ou son avant-avant-dernier, etc. Le dernier qu'il écrit, c'est Neverland, voilà, qui est absolument magnifique.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette écriture ?
D'abord, c'est l'écriture d'une façon générale de David qui me séduit. C'est une langue extrêmement riche, condensée. Qui est profonde. Et par exemple, pour De Terre de Honte et de Pardon, effectivement, il y a une histoire de famille à la base, comme souvent chez David, hein, il interroge souvent les liens familiaux. Mais par-dessus ça, il y a vraiment l'initiation de l'écriture, comment l'écriture naît et à quoi elle se raccroche. Et encore un arrière-fond, qui est vraiment un arrière-fond, je dirais, historique de là où on se situe, et ce rapport avec les autres écritures, et notamment les écritures bibliques. C'est-à-dire que non seulement il y a une histoire de famille, mais il y a une espèce de grande résonance qui balaye toute notre histoire et l'histoire de l'écriture. Il y a beaucoup de citations dans ce texte qu'on ne nomme pas, enfin vous allez entendre dans l'extrait qu'à certains moments, ce personnage qui s'appelle David, mais comme le roi David aussi, écrit, et il écrit des choses personnelles, mais aussi il réécrit des textes qu'il a lus, notamment de Faulkner et de Tarjei Vesaas ou de Jon Fosse. Voilà, donc c'est vraiment tout un travail d'écriture, de miroir et de reflet et de réflexion sur son propre travail. Mais ça n'est pas uniquement ça, je le dis. Il y a une histoire qui entrelace tout ça, effectivement, d'un père et de trois enfants. Donc le frère qui s'appelle le petit père, David et une sœur. Et il y a des éléments qui sont suggérés, qui peuvent être un peu violents. Voilà, mais qui sont tout d'un coup passés à la moulinette de l'écriture et qui permet de prendre une distance et tout d'un coup sublimer ça et d'arriver à l'écriture poétique, à l'écriture de David.
Eh bien, dites donc. Alors, c'est donc Éric Collonge qui va interpréter ce texte avec toujours la complicité, on va dire...
De Patrice Soletti.
Mère entre dans les églises, avec sa robe d'été et ses nu-pieds, avec ses mules, avec son corsage débraillé. Mère vole des cierges dans les églises, ça fait rire mère. Mère nous tire par les chemises, les par-dessus, par les gilets, par les t-shirts, par les culottes, par les bretelles des pantalons. Tandis que mère tire et soulève les draps censés couvrir, recouvrir père. Mère entre dans notre chambre, mère et poussette, ou mère déchire ce qu'on punaise le long des murs. Mère nous fait honte, mais nous l'aimons. Mère dit : j'ai rencontré ton père au bal du 14 juillet, un bal quelconque, rien de bien extraordinaire. Comme par un fait exprès, toute mon entreprise était là, toutes mes collègues, comme par un fait exprès. C'était à Pornichet, au bord de plage. Je portais l'or ta sœur Caroline, de 7 ans ton aînée. Depuis 2 mois, je la portais. Alors on s'est mariés tout de suite avec ton père dans la foulée. Quand tu es né, tu étais blond, vraiment si blond et si joli. Et tu es né dans la fournaise de cet été. Je m'en souviens de la canicule cet été-là. 17e jour du 7e mois. Tu te rends compte ? Oh, mon David ! Le livre dit que c'est ce jour où l'arche de Noé s'échoua sur les falaises de la montagne dite Ararat. Terme du déluge, il est écrit, je crois. Et puis ton père partait en mer, au-delà des terres, du golfe du Morbihan, la pointe de Brest jusqu'à Arcachon, et Noirmoutier. On avait d'abord voulu une fille, puis des garçons. Tu es venu après. Ton frère, le petit père, venu plus tard. Je n'avais pas voulu vous allaiter, ta sœur, ni toi, ni petit père, ton frère. on le savait que tu serais un garçon. J'avais fait faire le diagnostic, l'amniosynthèse. On l'a toujours su à l'avance pour vos sexes, pour chacun de nos enfants. Tu étais un enfant vraiment mignon, David, quand tu es né, à la figure tellement jolie. Tu étais blond, vraiment si blond, le visage doux d'une petite fille. J'ai recopié les phrases. Car son unique pensée était celle d'aller tout droit, toujours plus loin, comme pour se fuir, comme pour fuir l'autre, la bête qu'elle sentait naître en elle. J'ai refermé le livre. Je l'ai reposé contre ma table de chevet. Puis j'ai écrit dans mon carnet des écritures. Notre père reste un homme muet. J'ai répété les phrases apprises. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. J'ai répété les phrases apprises, inventoriées. Et car il se disait, je n'aurai pas de fils, jamais, pour perpétuer mon nom. Alors seulement, une fois redites les phrases apprises, les phrases écrites et répétées, je me suis couché dans les poussières et les moutons au-dessous de mon lit.
Wow, bravo, merci Eric, très beau. Hein. Donc, De terre, de honte et de pardon, un texte de David Léon avec Eric Collange et Patrick Soletti à découvrir à la baignoire le 27 et le 28 de ce mois. Alors, mais là, on pourrait rajouter concernant David Léon qu'il a commencé à écrire au Conservatoire de Paris en 2003. Il a publié en 2011 une première pièce que nous avons pu voir à Batman dans ta tête.
Oui, montée par Hélène Soulier.
Voilà. Et en 2015, La nuit, la chair, ce texte nous avons pu le découvrir au printemps des comédiens dans le cadre des lectures organisées par Dag Jeanneret et on pourra le voir le 2 février au théâtre Jacques Coeur dans le cadre d'Imprudence interprété par Stéphanie Marc.
Absolument, je le conseille à tout le monde. C'est un superbe texte aussi, La nuit, la chair, vraiment un travail, je dirais, entre sexe et, enfin, c'est sexe et politique. C'est-à-dire que c'est nouveau une relation personnelle et puis c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est ce que j'aime vraiment chez David, c'est que l'écriture, tout d'un coup, donne une amplitude incroyable aux problématiques qui sont posées.
Alors, ces textes sont édités aux Espaces 34.
Aux éditions Espaces 34.
Aux éditions Espaces 34. Avec qui vous collaborez ?
Oui, on travaille beaucoup avec Sabine Chevalier. On se fait passer les textes nouveaux. Elle me fait lire des textes qui ne sont pas édités. Mais voilà, on essaie de voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas et pourquoi. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration qui va continuer certainement.
Très bien. Alors, en mars, vu le succès, vous rejouez votre création 2016.
Absolument.
Le roi bohème de Stanislas Coton.
Coton. Il n'y a pas besoin de... Il n'est pas japonais.
Voilà.
Coton. Donc Stanislas Coton.
Un spectacle que tout le monde réclame. Magnifiquement interprété par Éric
Collonge.
Voilà.
Donc oui, le roi bohème, c'est l'histoire d'un jeune homme qui trouve... D'abord, on apprend qu'il est plutôt cigale et donc il trouve du travail, mais bon, il ne se pas forcené du travail. Il trouve du travail dans un magasin de chaussures. Voilà, il est chargé de faire essayer les chaussures, notamment aux femmes, aux jeunes femmes. Et une jeune femme apparaît. Et là, évidemment, il est complètement séduit, le coup de foudre absolu. Et donc, il est coincé dans son magasin. Et puis, une impulsion. Puis, il sort et il suit cette jeune femme. Et voilà, simplement, il y a abandon de poste.
Et oui, il y a abandon de poste.
Lampadaire me savonne. Apprécie peu l'escapade. Alors, vous êtes fier de vous ? Il grimace, tout raide dans son costume. Et je souris. Il va falloir vous expliquer, jeune homme. Que signifie cet abandon soudain de votre poste ? Croyez-vous que l'on s'éclipse comme ça, 10 minutes avant 5 heures, alors que l'on est tenu d'être parmi nous jusqu'à 6 ? Vous ignorez peut-être ce qu'est un contrat. Ce n'est pas ainsi que vous ferez long feu dans notre maison. Sachez que les candidats à la relève se bousculent au portillon. Tenez-vous droit. Vous tenez votre veste. Un coup de peigne ne vous ferait pas de mal. Je m'incline. Plus d'incartade, jeune homme. Et ne souriez pas comme ça. Mais quel niais, alors. Je sens qu'il a envie de me frapper. Que s'il le pouvait, il me frapperait. Et moi, j'ai envie de rire. Deux mules satinées me cliquettent dans la tête. Tac, tac, tap, 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 tap. Vous êtes certain ? Mon garçon, vous êtes certain d'aller bien ? C'est super, lampadaire. Tout va tagada, tout va bien, ça tac-tac, ça tic-tac à toute berzingue. Hop là! Je vais bien, monsieur, très bien. Et vous? Allez-vous? Vous, bien? Il me tourne le dos, hausse les épaules, hoche la tête. Cette jeunesse est perdue, marmonne lampadaire. Bel et bien perdue. Puis il installe une moue dédaigneuse sur ses lèvres et amarre dans un soupir sa carcasse au comptoir.
Merci Eric. Donc le roi coton, le roi bohème.
Ah oui, coton est coincé. C'est un magasin de chaussures et pas de cotonnade.
De Stanislas Coton. À voir et je dirais même à revoir. Donc c'est en mars. Vous pouvez nous donner les dates exactes, Bella, que nos auditeurs puissent vite réserver.
Du 16 au 18 mars et du 23 au 25 mars. Là, on a vu les choses en grand. Il y a 6 représentations. C'est une série.
Aïe, aïe, aïe. Alors, les informations pratiques. La baignoire se situe 7 rue Bruyès à Montpellier. Vous pouvez venir en tram pour la ligne 3 et la ligne 4, arrêt Saint-Denis. C'est juste, on va dire, derrière le Dôme, entre Clémenceau et Gambetta.
Derrière le Dôme, l'institution culturelle de Montpellier. Je salue les amis du Dôme. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Voilà un bistrot qui est, où on se retrouve tous, hein, on peut le dire, qui fait des expositions de peinture, des rencontres citoyennes, qui fait des rencontres linguistiques, enfin voilà, le Dôme est une institution à Montpellier, mais je crois que les Montpelliérains le savent.
Oui, oui, oui. Alors, vos tarifs, oui, pardon.
Non, je voudrais ajouter juste un petit spécial.
On n'a pas fini, hein.
Ah bon, d'accord. Oh. Parce que tu dois donner les tarifs, alors...
Mais là, bah oui, mais non, mais là, j'en profite avant que ça soit terminé.
Donnez les tarifs,
Il vous restera encore un petit peu de temps de parole, quand même. Donc, tarif général, 11 euros, ou 9 ou 6 pour bon, les différents... On va dire...
Les différentes catégories professionnelles, socio-professionnelles.
Voilà. Les réservations, très important, notez le numéro 06 01 71 56 27. Votre site internet labaignoire.fr. Alors régulièrement, Bella, vous accueillez les micro-concerts proposés par l'Oreille Électrique, Kesako.
Alors, l'Oreille Électrique, c'est de nouveau Patrice Seletti. Donc non seulement il nous accompagne dans des aventures de lecture ou des aventures de spectacle, de construction de spectacle, donc en travail d'improvisation et de travail musical sur ces objets, mais aussi par le biais de l'Oreille Électrique, il initie des micro-concerts qui sont des rendez-vous. Bon, Patrice travaille beaucoup dans l'électroacoustique et donc il nous fait rencontrer des gens improbables. Et notamment, on va reprendre, je vais trouver la date parce qu'il y a une date qui a changé, c'est Catherine Jauniot qui viendra le 30 mars, qui travaille, qui est musicienne et travaille aussi avec des découpages et qui travaille avec du papier. Voilà. Je n'en sais pas plus, que je ne connais pas Catherine Jauniot, et c'est ce qui me plaît dans le rapport avec l'Oreille Électrique, c'est que je découvre des choses. Et bien avant, le 24 février, il y aura Devin Gray à la batterie, avec donc un travail d'improvisation entre Patrice Seletti et ce batteur.
Alors très rapidement, fin de saison en avril avec Isabelle...
Bona Luciani, voilà. Ah, je voulais en parler. Ce ne sera pas le 21 avril comme il était annoncé dans le programme, mais bien le 21 avril, nous avons... le roi bohème dans un village proche de Montpellier. Voilà, c'est pourquoi nous avons déplacé la date.
Vous pouvez dire où, hein ?
À Saucine.
Bon, ben voilà.
Saucine, le centre du monde.
Oui.
Voilà.
Et toujours les intégrales de notre belle Hélène.
Alors, je voulais terminer sur Isabelle Bonaluciani. Vous pouvez retrouver, elle a un blog, etc. Et elle est sur Facebook. Et voilà, c'est une auteure montpelliéraine qui n'est pas assez connue. Qui a édité dernièrement, quand bien même, au carnet du dessert de lune. Voilà, c'est sa première édition et qui écrit des tas de choses très très tendres, très belles, très très intéressantes dans l'écriture. Et voilà, je vous engage à venir la découvrir le 22 avril. Et toujours les intégrales de la baignoire, bien sûr, depuis de nombreuses années. Donc des nouvelles intégrales lues par Hélène de Bissy entre midi et 14h, chant d'homme pressé.
Bella, un grand merci. Eric, un grand merci. On fait une petite, toute petite transition avec un nouvel extrait de Patrice Seletti avant de nous adresser à Brice Carayol.
Vive la côte. Deus, pai.
Et oui, vous êtes sur le réseau FM+, dans votre émission Scénorama, donc émission sur l'actualité culturelle. Écoutez tous les vendredis à 10h10, avec rediffusion le samedi à 12h10, et écoutable en podcast sur fmplus.org. J'ai oublié aussi le samedi, vous pouvez l'écouter à 18h10. Alors, Brice Carayol, les créations de machines théâtre sont toujours très attendu. Et vous êtes actuellement en plein travail à La Vista, où vous allez nous présenter une restitution de résidence sur quatre représentations du 19 au 22. Alors, Brice, il s'agit donc d'un travail en cours d'après des extraits de l'œuvre de Thomas Bernard, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Bon, vous pouvez développer.
Bah, je vais développer, mais merci de m'inviter.
Non, je vais vous aider. Pourquoi avez-vous choisi cet auteur ?
Bah, c'est un auteur que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. Et je suis tombé dedans, il m'a complètement passionné. Je crois que j'ai quasiment tout lu. C'est devenu même obsessionnel parce que voilà, il m'a fait un effet... Enfin, comme quand on découvre Dickens ou Jack London quand on a 14 ans, quoi. Et du coup, je ne sais pas pourquoi je veux monter ces textes-là, mais c'est de cet homme-là dont je veux parler.
D'accord. Et donc, vous avez tout lu ?
Quasiment, ce serait peut-être prétentieux, mais oui, j'ai tout relu même. Comme Proust, on le relit toujours.
Ouais, ouais. Alors, est-ce que vous voulez nous présenter cet écrivain et dramaturge autrichien ?
Oui, c'est un dramaturge autrichien qui est né en 1932. Et qui meurt en 1989 et qui a traversé malheureusement toute son enfance avec donc le nazisme, l'éducation nationale socialiste. Donc il a 15 ans, il est dans un internat national socialiste. Il perd très vite son père et qu'il abandonne, sa mère aussi. Il est éduqué par son grand-père et puis toute sa vie, il a été malade des poumons. Donc il a passé sa vie de sanatorium en sanatorium. Et de cette maladie des poumons, il en a tiré cette force vitale qui se transmet dans son écriture, c'est-à-dire qu'il a une puissance justement pulmonaire dans son style, dans sa façon d'appréhender l'écriture qui caractérise Thomas Bernard et qui a servi, je pense, de beaucoup de modèles à plein de jeunes auteurs, même je pense à David Léon, précédemment cité, parce que moi je pense que c'est un des plus grands auteurs des années 80.
Mmh. Alors c'est un auteur qui avait un humour féroce, c'est ça aussi qui vous a séduit dans son écriture et donné envie de monter ses extraits ?
Ouais, il a une rage contre ses pairs, contre l'Autriche, contre la culture, contre le mensonge, contre l'artificialité, mais une haine qui transforme en trouvaille d'humour, c'est-à-dire en force de vie. Et il a un humour, pour moi, ravageur. Il y a des gens qui détestent Thomas Bernard, qui ne trouvent pas du tout ça marrant parce qu'il a une logorée très répétitive, il est très obsessionnel, etc. Mais moi, ça me fait mourir de rire, au contraire, ça me donne envie de continuer le fight.
D'accord, donc vous nous ferez mourir de rire ?
Mourir de rire, non, mais j'espère sourire.
En tout cas, à la sauce machine théâtre, on va dire. Mmh. Alors, pour en terminer avec Thomas Bernard, bon, il faut préciser qu'il a écrit 250 articles, 5 recueils de poésie, 31 grands textes en prose et nouvelles, et 20 pièces de théâtre quand même. Et il a obtenu de nombreux prix. C'est quand même un sacré bonhomme. Et sa carrière aussi a été émaillée de pas mal de scandales quand même.
Ben, encore aujourd'hui, on n'a pas le droit de son vivant. Il avait fait interdire, on n'avait pas le droit de jouer ses textes en Autriche. Il ne voulait pas, quoi. Et toute la fin de sa vie, il refusait tous les prix. Il y a eu une aura constante de scandales autour de Thomas Bernard. Et... là, il y a Christian Lupa, c'est un grand metteur en scène polonais qui monte Thomas Bernard depuis des années et des années, qui joue en ce moment à Paris. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, parce que Christian Lupa en parlerait sûrement mieux que moi.
Mais vous en parlez très bien, Brice. On va écouter un extrait, je suis allé vous voler en plein travail à la Vista.
Ta mère avait toujours les cheveux défaits, alors que la mienne les portait toujours strictement tirés en arrière. Les relations que j'entretenais avec elle n'étaient plus fondées que sur un mécanisme punitif, de sorte qu'avec le temps, je n'avais plus adopté envers elle qu'une attitude de soumission. Exactement comme toi, qui m'étais toujours présenté à ta mère, peut-être basse. Les dimanches, dont on disait toujours à quel point ils étaient paisibles, ça avait toujours été l'enfer à la maison. Ouvrir l'œil le matin, c'était déjà apercevoir l'enfer. Au moment du petit déjeuner, c'était toujours un être complètement écœuré de l'existence, presque entièrement détruit même, qui s'asseyait et paraissait à table. La honte de la famille. Pourquoi m'ont-ils donné un nom, me demandais-je très souvent, alors qu'ils auraient pu directement me désigner comme la honte de la famille, que j'ai toujours été et que je suis toujours resté. Je pense au mutisme de ma mère. Le mutisme était un de ses moyens de prédilection pour me blesser à mort. Par son silence, mon père avait toujours été complice tacite de cette monstruosité, le spectateur passif de la façon dont ma mère me réduisait à néant. Ton père non plus ne disait rien, quand ta mère te tourmentait par ses paroles et manquait de te tuer à coups de cravache. Les pères laissent les mères se complaire dans leur folie destructrice et ne bronchent pas. Nos parents ont été notre mort.
Brice Carayol, voulez bien nous situer cet extrait ?
Oui, c'est un extrait de Retrouvailles, donc c'est une nouvelle. Et c'est un personnage qui retrouve un ami d'enfance sur le quai d'une gare. Et là va surgir tous les souvenirs qu'ils ont eus tous les deux entre 10 ans et 20 ans. Et donc tous les souvenirs de ce climat familial très toxique, de cette horreur que leur a fait subir ses parents à chacun. Sauf que son camarade ne se souvient de rien. Il a voulu faire un déni total et dit « il ne se souvient de rien ».
Voilà. D'accord. Alors, vous parlez de Retrouvailles. Voilà, vous aviez annoncé au départ le titre serait L'Imitateur. Et donc, voilà, j'ai appris que vous alliez le changer pour les Retrouvailles, c'est ça ?
Oui, parce qu'au début, je voulais travailler un peu plus particulièrement sur L'Imitateur, qui est un recueil de chroniques judiciaires. Et sauf que là, on en a enlevé beaucoup. Donc, pour moi, ça n'a plus de sens de l'appeler L'Imitateur. On a juste gardé quelques chroniques judiciaires. Voilà.
Ah, vous avez alors oui, vous pouvez détailler un peu vos choix, donc les chroniques judiciaires.
Donc il y a des chroniques judiciaires, donc parce qu'il a été chroniqueur judiciaire quand il avait 20 ans. Oui. Après là, il les a réécrites pour qu'elles soient drôles. Et après, on a travaillé sur quatre romans, des extraits de quatre romans. On a travaillé sur des poèmes et sur des discours qu'il a fait lors de remises de prix.
Un acteur comique qui pendant des dizaines d'années n'avait vécu que d'être comique. Et qui avait toujours rempli jusqu'à la dernière place toutes les salles de spectacle où il se produisait, a été, tout à coup, pour un groupe de touristes qu'il avait découvert sur la saillie rocheuse surplombant l'abreuvoir de Salzbourg, la sensation tant attendue. L'acteur comique aurait déclaré aux excursionnistes que, tel qu'il le voyait, en culotte de cuir et coiffé d'un chapeau tyroléen, de l'eau, il allait se jeter dans le vide. Sur quoi ? Les excursionnistes se sont, comme à l'accoutumée, bruyamment exclaffés. Mais il paraît que l'acteur comique aurait déclaré que c'était tout à fait sérieux et qu'il se serait, effectivement, immédiatement jeté dans le vide.
Donc là, c'est un extrait des chroniques judiciaires. Et donc voilà, il y a toute une série de morts macabres, de suicides, de meurtres. Et voilà, sous la forme d'un humour noir. Et voilà. Et donc là, c'était... un de ces extraits-là.
Mmh. Alors, comment avez-vous imaginé la mise en scène ?
La mise en scène, c'est le postulat de départ, c'est la mort du poète. Donc, c'est Thomas Bernard qui est, c'est la veillée mortuaire, une oraison funèbre autour du poète. Et de cette oraison funèbre, on va partir dans des espaces mentaux où on va greffer toutes ces histoires, mais on est quand même dans un code très absurde. C'est, on affirme une absurdité et c'est comme une sorte de farce de la désolation. C'est un peu pompeux, excusez-moi, mais c'est ça.
C'est pas pompeux du tout, on voit très très bien.
Merci Béla.
Non, mais ce que je trouvais incroyable, c'était dans le premier extrait, c'est le rapport vraiment avec la famille, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on en parlera toujours de la famille. Mmh. La famille qui s'inscrit dans une société, dans une histoire, etc. Et comment on en sort ou on n'en sort pas. C'est vraiment la question de qui on est, d'où on vient et comment cette liberté qu'on n'arrive pas à choisir, sauf peut-être dans le déni, comme tu le disais tout à l'heure, c'est intéressant, quoi. Mmh.
Vous voulez nous présenter les comédiens ?
Bien sûr. Et je rebondis sur Béla, qui est comme un grand frère pour moi, même si on n'a jamais travaillé ensemble. Et c'est vrai que moi, il y a une phrase de Thomas Bernard. Je suis jeune papa aussi, comme Eric à côté de moi, qui est lui papa de quatre enfants. il dit que tout enfant est né pour tuer l'artiste qui est son père. Tout enfant est fait pour tuer l'artiste qui est son père. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup questionné. Et voilà, et c'est un leitmotiv de toute l'œuvre de Thomas Bernard. Voilà. Et comment arriver à se sortir de cette chape paternelle, sous laquelle on a étouffé depuis le début.
Oui, il y a vraiment une rage chez Thomas Bernard. C'est vraiment une rage, il est dans une espèce de colère noire contre tout. Je pense que c'est pour ça que pour beaucoup de gens, ça leur plaît pas. Mais quand tu dis farce, c'est vraiment ça, c'est une rage à une farce. Quoi. Pour faire une farce, il faut être vraiment en rage totale. Mmh. Et c'est vraiment pour ça que les contemporains, et nous, enfin, parfois il y a des gens qui sont complètement allergiques à Bernard, mais c'est quand même une rage assez salvatrice.
Oui, puis il y a un art de l'exagération qui fait qu'il y a quand même une mise à distance où voilà, si on n'entend pas l'humour, c'est qu'il y a un souci...
dans la tête du spectateur.
Voilà. Après, je comprends. C'est comme il est sur des thèmes tout le temps sur le fascisme, etc. Voilà, c'est des thèmes durs. Donc voilà, on n'a pas envie de tout le temps de réentendre ça malgré le fait que ça pointe du nez.
Alors, on terminera l'émission avec un dernier extrait. Vous pouvez nous le situer.
Oui, c'est lequel?
C'est le troisième que je vous ai volé hier.
Oui, tout à fait. C'est lors de la remise de prix voilà. de Thomas Bernard, un texte très, très, très marrant.
Avant, on va présenter les comédiens et on terminera l'émission avec l'extrait.
Donc, il y a Patrick Molo, Laurent Dupuis, Christelle Glise, Franck Ferrara et Thomas de Givry qui fait la création lumière. On n'a pas de scénographe parce qu'on est en chantier sans travail, donc on va esquisser des idées. Voilà, il n'y a pas une... Il y a juste une équipe comme ça, pour l'instant, plus réduite.
D'accord. Donc, je vais passer aux informations pratiques. Je dis l'imitateur ou je dis les retrouvailles?
Les retrouvailles.
Alors, les retrouvailles de Thomas Bernard par la compagnie Machine Théâtre. Une mise en scène de Brice Carayol. Donc avec Laurent Dupuis, Franck Ferrara, Christelle Glise, Patrick Molto, Nicolas,
il est sur un autre projet.
D'accord. Donc voilà, une première version de cette création, c'est à voir au théâtre La Vista. Jeudi et vendredi, alors jeudi 19, vendredi 20, c'est à 19h, samedi 21 à 20h, dimanche 22 à 18h30. La Vista se situe 42 rue Adam de Craponne. Le téléphone pour les réservations 04 67 58 90 90. Le site théâtrelavista.fr. Votre site internet à vous, Machine Théâtre, c'est
Machine Théâtre, www.machinetheatre.com.
voilà, je vous ai posé la colle. Bon, c'est pas grave, il suffit de cliquer, enfin, de chercher Machine Théâtre et on vous trouve, hein, de toute oui, façon. Oui. Voilà, on termine donc avec un dernier extrait. Merci, merci à vous, messieurs. Merci à Manu qui était à la technique. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Jusqu'à 40 ans, je me suis laissé chier sur la tête dans tous ces hôtels de ville, dans toutes ces salles des fêtes. Car une remise de prix n'est rien d'autre qu'une cérémonie au cours de laquelle on vous chie sur la tête. Accepter un prix, cela ne veut rien dire d'autre que se laisser chier sur la tête parce qu'on est payé pour ça. J'ai toujours ressenti ces remises de prix comme la pire humiliation qu'on puisse imaginer, et pas comme un honneur. Car un prix est toujours décerné par des gens incompétents qui veulent vous chier sur la tête et qui vous chient copieusement sur la tête quand on accepte leur prix en main propre. Et c'est à bon droit qu'ils vous chient sur la tête, parce qu'on a été assez abject et méprisable pour accepter qu'ils vous remettent leur prix.